politique, en partenariat avec Libération et France 24.
Florent Guignard.
Bonsoir, bienvenue dans Mardi Politique avec le ministre des Finances et des Comptes Publics. Bonsoir, Michel Sapin.
Oui, bonsoir.
Ministre au cœur de l'actualité après le scandale des Panama Papers et de la fraude fiscale mondialisée et avant le grand rendez-vous télé jeudi soir de François Hollande face à quelques Français. Vous êtes Michel Sapin, l'un de ses plus proches amis, et vous nous direz tout à l'heure si François Hollande peut être candidat en 2017 et s'il faudra un miracle pour qu'il soit réélu. À mes côtés dans ce studio pour vous interroger, Roselyne Fèvre de France 24, bonsoir.
Bonsoir.
Et Lilian Alemania de Libération, bonsoir.
Bonsoir.
Une onde de choc sur la planète finance, les Panama Papers, c'est la révélation d'un système quasi-industriel de fraude fiscale. Demain, Michel Sapin, vous partez pour Washington pour vendre auprès du FMI et de l'OCDE de nouvelles mesures contre l'évasion fiscale. On croyait pourtant que les paradis fiscaux s'étaient terminés. Est-ce qu'en matière de fraude fiscale, au fond, ce n'est pas comme en matière de dopage dans le sport, les tricheurs auront toujours une longueur d'avance?
Non. Non, nous avons parfaitement les moyens de lutter. C'est pas tant contre les paradis fiscaux, je crois qu'il faut faire attention aux termes qu'on utilise, qu'il y ait des pays dans lesquels les impôts sont plus faibles que d'autres, c'est leur choix. Moi, je suis pour qu'il y ait une certaine harmonisation, mais on ne va pas essayer de s'harmoniser avec un pays à l'autre bout du monde. Il faudrait essayer de s'harmoniser au niveau européen. C'est pas le côté paradis fiscal, c'est le côté opacité fiscale. Ce contre quoi il faut lutter.
Oui, mais c'est la définition des paradis fiscaux aussi, l'opacité.
Non,
notamment.
Les paradis fiscaux, un endroit où, si vous y allez de manière parfaitement transparente, si vous y investissez de manière transparente, vous payerez beaucoup moins d'impôts ou peut-être même pas d'impôts du tout. Ce qui est gênant, c'est pas que quelqu'un veuille aller à un endroit où il paye moins d'impôts, c'est qu'il se cache de cela pour éviter que, ayant gagné de l'argent, par exemple, en France, il paye des impôts en France en allant se dissimuler derrière telle ou telle entité. Donc, il faut lutter contre cette opacité. On connaît les outils. On connaît les moyens. Nous le faisons en France.
Et on a déjà eu des moyens mis en place, notamment après la crise financière mondiale de 2008. Et aujourd'hui, il y a eu ces révélations.
On connaît les moyens pour chacun de nos pays. La France le fait. Nous avons aujourd'hui une transparence totale en France. Nous avons utilisé un certain nombre de moyens qui font que, par exemple, il y a énormément d'argent et d'impôts qui reviennent de placements qui étaient faits de manière discrète en Suisse, ou au Luxembourg, ou à Singapour. Quand j'ai dit énormément d'argent, la lutte contre la fraude fiscale en France a permis de faire en sorte qu'il y ait, l'année dernière, plus de 2,6 milliards d'impôts payer sur des comptes qui étaient jusque-là des comptes cachés. Donc, nous savons faire dans un seul pays. Mais si vous agissez dans un seul pays, les mécanismes très compliqués, très subtils, qui coûtent parfois très cher à mettre en œuvre, permettent éventuellement, en jouant d'une législation sur une autre, en jouant avec des pays où on peut ouvrir une entreprise ou un trust, comme on dit, sans donner son identité, on peut arriver à échapper par le biais international. Pourquoi je dis cela? Parce que ce qui nous manque aujourd'hui, c'est pas les outils dans chaque pays, c'est la coordination internationale. Le fait qu'on agisse tous dans le même sens et que au-delà de la connaissance, on ait aussi les moyens de sanctionner.
Roselyne Fèvre,
pour récupérer des recettes fiscales, parce que bien sûr c'est important, comment vont se passer les enquêtes pour pouvoir avoir accès à ces fichiers? Est-ce que les journalistes, est-ce que vous allez travailler avec les journalistes? On sait que certains pays, notamment comme l'Allemagne ou l'Islande, payent pour pouvoir avoir ces fichiers. Est-ce que vous allez le faire?
Donc là, vous faites allusion aux fichiers qui ont permis à ce groupement de journalistes de faire un certain nombre d'enquêtes qu'on appelle les Panama Papers.
D'ailleurs, le Panama qui n'est plus sur la liste noire des paradis fiscaux.
Enfin, je ne sais pas où, mais pour ce qui est de la France, comme vous le savez, le Panama a été réintroduit sur la liste noire des pays dits non coopératifs.
Oui, mais on l'avait enlevé avant, vous comprenez.
C'est vrai, mais je ne suis pas tout à fait responsable de ce qui a pu être décidé en 2011 et appliqué au 1er janvier 2012. Par contre, je me sens responsable de ce qui peut se passer maintenant et compte tenu d'un certain nombre d'informations qui nous ont été données. Mais je réponds à votre question. Pouvons-nous disposer de ces fichiers, de ces informations ? Nous n'en disposons pas aujourd'hui. L'administration française n'a pas connaissance de ces documents. Des journalistes en ont connaissance. Je ne sais pas quel usage ils souhaiteront en faire, tout en protégeant leurs sources, qui est parfaitement légitime. J'ai cru comprendre qu'à un moment donné, ils allaient publier les éléments qui permettront aux administrations de chacun des pays concernés de faire le travail normal. Jusqu'à présent, pour dire les choses, je n'ai pas fait de très grandes découvertes. Les noms que j'ai pu voir apparaître, pour la plupart d'entre eux, sont des noms qui sont bien connus de mes services et qui font déjà l'objet d'un certain nombre d'enquêtes ou de redressements.
Jérôme Cahuzac, Patrick Balkany, oui, par
alors
exemple.
Alors là, c'est public-public, si je puis dire, puisqu'ils sont même devant la justice.
Mais Société Générale, la
justice. Société Générale n'est pas, en tant que telle, quelqu'un qui a cherché à se dissimuler, même s'il faut regarder dans quelle mesure Société Générale aurait facilité la dissimulation de tel ou tel client. Mais la question qui nous est posée maintenant, c'est non pas seulement allons-nous pouvoir disposer de ce fichier qui est aujourd'hui entre les mains d'un groupement de journalistes, je pense qu'à un moment donné, nous allons pouvoir en disposer. Mais la question que vous me posiez, c'est est-ce qu'il faut payer pour avoir, non pas ce fichier, mais d'une manière générale. Certains pays ont cette disposition. En France, la loi ne l'autorise pas. La loi interdit que dans le domaine fiscal, on rémunère un informateur. On voit bien pourquoi. C'est pour éviter quelque chose qui aurait été qualifié de délation généralisée sur des questions fiscales éventuellement mineures. Donc évidemment, je ne pense pas qu'il faille mettre en place un système de rémunération. On reçoit déjà suffisamment de lettres comme ça anonymes pour dire mon voisin cache ceci ou cache cela pour ne pas encourager. Par contre,
mais ça
pourrait
évoluer,
des cas très précis, ou comme cela, où on voit qu'il s'agit de quelque chose de massif, de quelque chose de construit, de quelque chose de profondément attentatoire à l'intérêt général, je pense qu'on pourrait évoluer. En tous les cas, je propose qu'on examine la possibilité d'évoluer et donc de rémunérer, dans ces cas très précis, celui
ou celle... Il faudrait changer la législation.
Et pour ça, il faut changer la loi. La loi, aujourd'hui, est très claire. Elle interdit la rémunération de l'informateur dans le domaine fiscal.
Michel Sapin, une question de Lilian Alemania, de Libération.
Monsieur Sapin, vous parlez de coopération. Concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui de plus pour empêcher que des gens dissimulent de l'argent à l'étranger qui devrait servir au financement des politiques publiques en France.
Oui, ou la consommation personnelle, mais en tous les cas, qui n'échappe pas à la visibilité légitime que doit avoir l'État sur les propriétés ou sur des revenus.
Donc concrètement, qu'est-ce que chacun d'entre nous ?
Il y a deux outils, très concrètement. Le premier outil, c'est ce qu'on appelle l'échange automatique d'informations. La possibilité entre administrations fiscales, l'obligation entre administrations fiscales d'échanger les informations dont nous pouvons disposer. Il y a un traité qui a été signé l'année dernière à Berlin. Plus de 100 pays aujourd'hui au monde ont signé ce traité sur l'échange automatique d'informations. Il est applicable dans la plupart de ces 100 pays à compter du 1er janvier 2017, 1er janvier prochain, et dans un certain nombre d'autres pays. C'est vrai pour la Suisse, Luxembourg, Singapour ou Hong Kong. Vous voyez que je ne les cite pas complètement au hasard. Il sera applicable au 1er janvier 2018. C'est d'ailleurs la perspective de cet échange automatique d'informations qui fait que de ces pays reviennent beaucoup de déclarations vers la France parce que les uns et les autres savent qu'à un moment donné, tout ça sera transparent et sera connu. Mais il faut que cet échange automatique d'informations soit obligatoire pour tous les pays. Panama aujourd'hui, et c'est ce que nous reprochons, refuse de rentrer dans ce système d'échange automatique d'informations.
Et s'il continue de refuser, qu'est-ce qu'on fait ?
C'est là où il faut des sanctions. Alors nous prenons des sanctions en France, avec l'inscription sur la liste, ça a des conséquences lourdes. C'est-à-dire que des mouvements de fonds vers Panama sont taxés, grosso modo, à 75%. C'est assez dissuasif, si je puis dire. Mais la France...
Oui, puisqu'on n'arrive pas à les déceler, la ces France, mouvements. Comment
si,
on les taxe ?
Cela, on peut les déceler quand ils partent. Mais la France toute seule, c'est très bien. Mais enfin, c'est pas ça qui va avoir un effet dissuasif massif. C'est donc la question de la coopération. Il faut que nous ayons tous mis en œuvre le système d'échange d'informations automatiques et que nous mettions au banc des nations ceux qui refusent de le faire. C'est ce que nous faisons pour le Panama et ce qu'il faudrait partager. J'en parlerai d'ailleurs ce week-end avec en particulier les pays du G20, les grands pays. Et nous demandons que dans le communiqué final du G20, il soit très clair que les membres du G20 et donc au-delà veulent qu'il y ait l'échange automatique d'informations le plus rapidement possible pour tous les pays du monde. Le deuxième outil dont nous avons besoin, c'est ce qu'on appelle le registre registre des sociétés, registre des trusts. Le mot trust veut dire grosso modo qu'on ne sait pas très bien qui il y a derrière. Il se crée, on voit à Panama, des sociétés, des éléments juridiques, si je puis dire, pour prendre un terme un peu large, qui permettent de dissimuler totalement et complètement qui est propriétaire, qui est bénéficiaire. Il faut un registre des vrais propriétaires et des bénéficiaires effectifs de ces mécanismes, de ces comptes qui peuvent être à l'étranger. Ça, c'est absolument indispensable. Nous devons le faire au niveau européen. C'est une proposition que vient de faire Pierre Moscovici. Nous devons le faire au niveau international. Et les pays qui refusent, pour presque précéder votre question, mais elle est parfaitement légitime, là aussi, on doit la mettre au banc des nations et disposer des sanctions nécessaires. C'est là-dessus qu'il faut progresser. C'est pas si simple, hein. Parce qu'il y a un moment donné où il peut y avoir des petits jeux entre tel pays qui dit « mais moi, je vais pouvoir continuer à commercer tranquillement avec un tel pays important ». Et Panama est un pays important du point de vue à la fois financier, mais aussi en tant que pays. Le canal de Panama, c'est quelque chose que chacun peut comprendre et qui permet en particulier un commerce florissant de se développer à Panama. Voilà, tout l'enjeu, c'est pas simplement d'agir chacun dans son coin, c'est d'agir ensemble. Au niveau européen, des propositions très importantes sont faites par Pierre Moscovici, et nous aurons à en parler la semaine d'après. Au niveau international, au G20, et c'est la volonté de la France que de voir prise en compte ces propositions, là, ce week-end-là, à Washington.
Alors, en marge de ces révélations des Panama Papers, il y a la question des lanceurs d'alerte. D'ailleurs, François Hollande, la semaine dernière, a salué le rôle des lanceurs d'alerte, et on comprend pas bien, du coup, pourquoi, bien, par exemple, le chef d'État n'a pas dit oui à la demande d'asile formulée par Edward Snowden l'an dernier.
Mais là, vous confondez, pardon de le dire, les choses. Un lanceur d'alerte, du point de vue juridique, d'ailleurs en France, puisqu'il y a des statuts de lanceurs d'alerte qui existent, c'est quelqu'un qui va dénoncer des faits délictueux ou la facilitation de ces faits délictueux par une entreprise, que ces faits soient une atteinte à la fraude fiscale, qu'il s'agisse de l'atteinte à la santé dans la production de tel ou tel produit. C'est quelqu'un qui le fait, y compris parce qu'il le fait dans le sens de l'intérêt général. Je ne le confonds pas avec quelqu'un qui trahirait des secrets d'État. Quelqu'un qui trahit des secrets d'État.
Vous considérez qu'Edward Snowden n'est pas un lanceur d'alerte ?
C'est quelqu'un qui trahit un secret qui est protégé, et tout particulièrement un secret d'État, n'est pas un lanceur d'alerte. Il fait ce qu'il veut, c'est sa responsabilité, mais ça n'est pas un lanceur d'alerte. Occupons-nous déjà de ceux, ils sont trop nombreux aujourd'hui, qui ayant été lanceur d'alerte, ayant lancé l'alerte, se trouvent dans des situations extrêmement difficiles. Donc aujourd'hui, il y a, oui, des gens qui sont vraiment en très grande difficulté parce que ils sont plus dans l'entreprise, parce qu'ils n'ont pas forcément retrouvé un boulot, parce qu'il peut y avoir des procédures judiciaires qui ont été lancées contre eux par l'entreprise d'où ils viennent ou le pays dans lequel ils exerçaient et qui considèrent que la loi a été fraudée par eux-mêmes. Donc il faut pouvoir les protéger. C'est une proposition que je fais dans un texte que j'ai proposé, que certains appellent la loi Sapin 2, qui a comme objectif, parmi d'autres, celui de la transparence, de la lutte contre la corruption au niveau international et la protection des lanceurs d'alerte.
Pour revenir sur Edward Snowden, il a révélé les écoutes de la NSA. C'est trahir son pays que de révéler des citoyens ou...
Je suis pas là pour parler de ce monsieur. Il l'a fait sûrement en conscience, mais je ne confonds pas les deux. Il l'a fait en trahissant, diront les Américains, les règles qui sont les règles qui s'appliquaient à l'organisme dans lequel il travaillait. Ça n'est pas la même chose que telle ou telle femme comme celle que j'ai rencontrée l'autre jour qui, au sein d'UBS, a permis que soit connu un certain nombre de faits de personnes privées qui sont des faits évidemment délictueux.
Michel Sapin, le ministre des Finances et des Comptes Publics, est l'invité de Mardi Politique. Et demain, Michel Sapin, au Conseil des ministres, vous présentez la trajectoire budgétaire de la France. Vous avez déjà obtenu de la part de la Commission européenne 3 reports pour arriver à cet objectif des 3% de déficit budgétaire. Qu'est-ce que vous allez dire à la Commission européenne à propos des dernières annonces de Manuel Valls en faveur de la jeunesse, des annonces coûteuses? Combien, d'ailleurs, ces annonces vont coûter au budget de la France et est-ce que ça ne va pas renchérir le déficit budgétaire?
Est-ce qu'on peut revenir au principal?
C'est-à-dire
la trajectoire.
La trajectoire.
C'est ce que vous appelez la trajectoire. C'est quoi la trajectoire? C'est la volonté parce que c'est l'intérêt de la France, de diminuer progressivement le déficit de la France. Donc, de maîtriser notre endettement et de ne pas reporter sur les générations qui viennent le coût du bon fonctionnement des services publics aujourd'hui. Ça peut aller pendant un certain temps, il y a un moment donné où ça devient insupportable pour tout le monde. Nous avons décidé, parce que c'est l'intérêt de la France, d'être progressivement dans une diminution des déficits qui sont des déficits publics. En 2015, l'engagement que nous avions pris par rapport à nous-mêmes, par rapport au Parlement, qui se trouve être le même engagement que celui que nous avons pris par rapport à nos partenaires, c'est normal que nos partenaires, on a la même monnaie, se préoccupent de la situation budgétaire de notre pays, cet engagement, non seulement il a été tenu, il a même été plus surperformé, comme on dit dans le jargon, encore meilleur.
En fait, mieux prévu.
Nous avons mieux prévu. Nous avons diminué plus vite le déficit l'année dernière que nous ne l'avions prévu. Et pour cette année, c'est ça aussi l'engagement vis-à-vis de la France, vis-à-vis de la nation, comme vis-à-vis de nos partenaires. Nous continuerons à le diminuer dans les conditions que nous avions prévues. Et l'année prochaine, nous passerons au-dessous de ces fameux 3%. C'est pas 3% pour 3%, mais c'est à partir de ce moment-là qu'on commence à faire diminuer le poids de la dette, conformément à nos engagements pris là aussi vis-à-vis du peuple français, comme vis-à-vis de nos partenaires.
Je reviens sur les annonces à la jeunesse, Michel Sapin.
Oui, mais je vais en parler. Pourquoi je dis ça? Parce que l'année dernière, nous avons diminué les déficits en diminuant les impôts. Il est arrivé parfois, avec les uns ou avec les autres, avec la droite ou avec la gauche, qu'on diminue les déficits en augmentant les impôts. Cette fois-ci, on a diminué les déficits, diminué les impôts, et j'en viens à votre question, on a financé, et nous continuerons à le faire, des dépenses nouvelles, qui sont des dépenses d'urgence, par exemple la lutte contre le terrorisme, le renforcement des moyens de la défense nationale pour agir à l'extérieur, ou bien des réformes, des dépenses qui nous paraissent être dépenses nécessaires, justes, justifiées, en faveur de l'emploi ou en faveur de la jeunesse. Nous savons faire les trois à la fois.
Oui, mais vous aviez toujours
déficits,
dit
diminuer les impôts et maîtriser les dépenses publiques.
Oui, mais vous avez toujours dit que les mesures nouvelles seraient gagées par des économies nouvelles.
Évidemment. Hein? Sinon, je ne sais pas comment je réussis ce que je viens de vous dire.
J'entends bien. Mais là, on est au mois d'avril. Bon, sur le budget, il y a 500 millions pour les jeunes, 650 millions pour la police et les gendarmes, plus les aides aux agriculteurs et le 1,2% du point d'indice des fonctionnaires, ça va coûter quoi, 2 milliards d'euros. Donc, est-ce que tout ça, ça rentre dans la boîte?
Alors, les choses sont un tout petit peu plus
subtiles. On économise où pour payer ça?
Sont un tout petit peu plus subtiles. S'agissant des dépenses en faveur de la police, que vous venez de signaler, ou de la défense, c'était déjà intégré dans le budget dès la fin de l'année dernière. Deuxième chose, s'agissant des agriculteurs, ou s'agissant de ce qu'on a appelé le plan en faveur de la formation, les 500 000 formations, nous avons une dépense supplémentaire, qui est une dépense supplémentaire au total de l'ordre de 3 milliards. Vient d'être décidé, c'est mis en œuvre actuellement, 3 milliards d'économies ailleurs dans l'État, parce que
il faut,
quand on fait, mais on est en train de le faire, vous savez, 3 milliards sur 1000 milliards de dépenses publiques,
c'est
facile général, 3 milliards sur 1000 milliards, vous faites le calcul, vous voyez qu'on est quand même dans des tout petits pourcentages, on n'est même pas dans du pourcentage, on doit être dans quelque chose qui s'approche du millième. Bien, donc on est en capacité parfaitement de le faire. On avait fait l'année dernière, on le fait cette année. Il reste devant nous, parce qu'il faut garder les choses telles qu'elles sont, quelques dépenses nouvelles qui ont été annoncées, le point des fonctionnaires. C'est pas tellement pour 2016, mais c'est pour 2017. Et des aides aux jeunes, en particulier pour maintenir les bourses un peu au-delà du moment où ces jeunes sortent du système universitaire. Ces dépenses sont peu élevées pour 2016, plus élevées pour 2017. En 2016, elles seront entièrement financées par de nouvelles économies, mais on est dans des centaines de millions, on n'est pas dans des milliards. Et pour l'année prochaine, nous sommes en train de construire un budget où il faudra faire à peu près 5 milliards d'économies supplémentaires par rapport à ce qui avait été prévu pour financer ces dépenses. On peut diminuer les déficits, diminuer les impôts et en même temps faire face à des dépenses nouvelles.
Le ministre des Finances, en 2016, année préélectorale, n'a aucune inquiétude sur la tenue du budget et des comptes publics.
Mais ce n'est pas le fait qu'on est préélectoral qui doit nous inquiéter. Ce qui nous inquiéterait,
on fait beaucoup de cadeaux là en ce moment.
Ce qui nous inquiéterait, c'est si, parce que ce serait mauvais pour la France, ce n'est pas une histoire électorale, c'est si tout d'un coup, on disait, après avoir diminué les déficits, on repart dans l'autre sens.
Merci, Michel Sapin. On se retrouve juste après.
Mardi politique, en partenariat avec Libération et France 24.
Florent Guignard.
C'est la seconde partie de Mardi Politique avec le ministre des Finances et des Comptes Publics, Michel Sapin, avec Roselyne Fèvre de France 24 et Lilian Alemania de Libération. Michel Sapin, le président de la République, s'invite cette semaine à la télévision. Ce sera jeudi soir sur France 2 lors d'une émission intitulée « Dialogue citoyen ». Que peut espérer François Hollande de ce dialogue, donc, organisé avec quatre Français, se relancer, sera-t-il candidat l'an prochain? En tout cas, pour la ministre de l'Éducation, Najat Vallaud-Belkacem, la question ne semble même pas se poser.
Bien sûr, je souhaite que François Hollande soit président, soit candidat d'abord.
Oui, et réélu,
c'est la première
oui.
étape oui. à la présidence et réélu, c'est évident. Pourquoi?
Oui.
Parce que moi, j'estime que ce qu'il a fait au cours de ce quinquennat, mais sans doute les Français en jugeront mieux à la fin du quinquennat pour avoir une vision d'ensemble, aura été plus qu'utile à la France, l'aura sorti de l'ornière. Je pense que cette action mérite d'être reconduite, en effet, et de durer sur le long terme. Donc
un
deuxième quinquennat serait le bienvenu. D'évidence, et François Hollande me semble plus légitime pour conduire ce deuxième quinquennat, bien sûr.
Voilà, Najat Vallaud-Belkacem, c'était ce matin sur BFM Télé. Michel Sapin, on imagine que vous partagez la foi de la ministre de l'Éducation nationale. Est-ce que vous ne pensez pas quand même que quelque chose s'est irrémédiablement brisé entre les électeurs, avec les électeurs de François Hollande? C'est le sentiment qu'on a sur le terrain et à plus forte raison depuis ces dernières semaines, depuis les affaires d'échéance et loi travail.
Non, je n'ai pas ce sentiment. Mais en vous répondant comme ça, je ne vais pas vous dire que tout est simple, tout est facile, évidemment, dans le contexte d'aujourd'hui. En fait, si on veut bien comprendre, parce que tous les responsables politiques, ou presque, dans les pays qui traversent la crise depuis des années et des années, il faut voir combien il est incroyable, étonnant, jamais vécu par les Français, mais même par les Européens, d'avoir une crise qui dure depuis aussi longtemps. De 2008-2009 jusqu'en 2016-17, et encore, on ne pourra pas dire qu'à ce moment-là, on est complètement sorti du mécanisme de la crise. C'est du jamais vu que des pays... C'est le cas, par exemple, de l'Espagne, dont on dit qu'ils croissent à toute vitesse. Mais que des pays comme l'Espagne soient à un niveau de PIB, niveau de richesse inférieur à celui de 2008, c'est du jamais vu.
En France,
nous ayons un PIB qui soit juste au-dessus du niveau de 2008, c'est du jamais vu.
C'est seulement la faute de la crise.
Les Français, mais c'est la crise, c'est la manière dont on l'appréhende, c'est la manière dont on lutte contre les effets de la crise. C'est le fait qu'il y a une attente de résultats. Et le résultat, c'est quoi? Le résultat dans l'esprit des uns et des autres du point de vue économique et social, c'est la question du chômage. Donc c'est tout cela qui aujourd'hui rend les gens souffrent. Les gens, s'ils souffrent pas pour eux-mêmes, parce qu'ils seront victimes de la crise, ils souffrent pour leur pays, parce qu'ils ont du mal à voir comment on peut se sortir de cette situation. C'est ça, la réalité d'aujourd'hui. Et donc, la responsabilité politique, c'est d'essayer, à partir de l'analyse, en la regardant en face, hein, en regardant une réalité qui est une réalité difficile en face, de voir quelles sont les structurations de la pensée, quelles sont les propositions pertinentes qui peuvent nous permettre d'abord d'avoir des résultats et deuxièmement de projeter les Français vers l'avenir. Ça sera évidemment le travail de François Hollande. Lors de cette émission, certainement. Enfin, une émission ne fait pas l'ensemble.
On a l'impression que ce travail n'a pas été fait, que les Français ne savent pas où on va et qu'ils ne comprennent pas pourquoi on a fait tant de cadeaux aux entreprises et pourquoi leurs impôts ont augmenté et pourquoi on appelle les Français au sacrifice.
Alors, pardon de vous le dire comme ça, je pense que le terme de cadeau aux entreprises, c'est une grande facilité.
Mais c'est ce qu'ils disent, c'est ce qu'ils ressentent.
Non,
ce n'est peut-être pas vrai, d'un point de vue lexical, mais c'est leur ressenti.
Mais quand vous êtes salarié d'une entreprise, il m'arrive de rencontrer des salariés d'entreprise, et qu'il y a des mécanismes d'aide à l'entreprise, ils disent c'est une aide à mon entreprise. C'est pas un cadeau à l'entreprise. C'est pas un cadeau. Quand on a, par le biais du CICE ou par le biais des baisses de charges, permis aux entreprises, non pas de retrouver exactement le niveau de ce qu'on appelle les marges, c'est-à-dire leur capacité d'initiative, que ce soit pour embaucher ou que ce soit pour investir. On leur a permis pas tout à fait de retrouver le niveau de 2008. On va y arriver à la fin de cette année. C'est redonner aux entreprises françaises, je le répète, la capacité d'investir, l'investissement est indispensable, et la capacité d'embaucher.
Oui, mais le chômage ne baisse pas,
donc,
et c'est aussi une des conditions
ensuite,
de la nouvelle candidature
ensuite,
de François Hollande.
Ensuite, évidemment, il y a la question du chômage et la question de la perception du recul du chômage. Ce que je peux vous donner, parce qu'il faut aussi regarder les choses là en face, l'année dernière, en 2015, pour la première fois depuis des années et des années, l'économie française. Je ne parle pas des emplois aidés ou des emplois dans les collectivités territoriales. Je parle de l'économie française. Le tissu économique français a créé 100 000 emplois. On n'avait jamais vu ça. A créé 100 000 emplois. Mais la caractéristique de la France, si vous comparez...
Privé ou public
Dans le privé, privé vraiment privé. Dans le privé. D'accord. 100 000 dans le tissu économique. Les artisans, les commerçants, les entreprises...
Mais parce que par rapport aux autres pays... Beaucoup de jeunes arrivent sur le marché.
Voilà, la caractéristique. Et donc, la caractéristique, mais il faut le voir, regardez.
C'est
une difficulté aujourd'hui, mais c'est une chance incroyable pour demain. Si vous comparez à l'Allemagne, si vous comparez à l'Espagne, à beaucoup d'autres pays, nous avons tous les ans une population active plus nombreuses, là où bien des pays ont une population active moins nombreuse. Nous aurions la même démographie qu'en Allemagne, on n'aurait pas de chômage ou quasiment pas de chômage, sauf qu'on a 160 000 de plus des jeunes qui arrivent sur le marché du travail et à qui il faut offrir en face plus de 160 000 créations d'emplois.
Donc vous allez arriver à inverser
cette courbe. Je pense qu'on va y arriver. Je pense qu'on est aujourd'hui, les conditions sont réunies pour y arriver. Je vais pas.
Il y a trois ans, c'est ce que vous disiez déjà.
Reprendre des engagements ou des dire à telle date ou à telle autre, mais je crois que les conditions aujourd'hui sont réunies pour que l'économie française crée suffisamment d'emplois. Il faut être vraiment à des niveaux élevés pour faire reculer le chômage.
Selon les chiffres d'Eurostat, effectivement, depuis deux ans, la France a créé 57 000 emplois privés. L'Allemagne, 10 fois plus. L'Espagne, 10 fois plus. L'Italie, 6 fois plus alors qu'elle est en récession. Donc on n'est quand même pas, même s'il y a un mieux, à côté de nos amis européens, on est un peu quand même en dessous du niveau de la mer.
Je pense que les chiffres ne sont pas comparables.
En revanche, les emplois publics, 233 000.
Je pense que les chiffres ne sont pas comparables. Vous dites très souvent. Moi, je vous donne des chiffres qui sont les chiffres nets.
2013-2015.
C'est la différence entre les créations et les destructions. Il y a aussi des destructions d'emplois. 100 000 l'année dernière, c'est du jamais vu en France depuis des années et des années. Ça prouve bien que notre politique a un effet positif. Pas encore suffisant, évidemment, pour que ça puisse faire reculer de manière significative le chômage, même si globalement, au cours de l'année 2015, ce chômage est resté stable, avec des montées et des descentes, mais globalement, il est resté stable. Rester stable, ça ne nous suffit pas. Il faut qu'il recule, et en particulier qu'il recule pour les jeunes. Il a commencé à reculer pour les jeunes, il faut amplifier ce mouvement. C'est indispensable. Vous me parliez de François Hollande, de l'émission, ces résultats sont indispensables. Ils sont devant nous. Ils sont parfaitement possibles à atteindre, et ça sera un élément très important.
C'est seulement ça qu'il va dire jeudi soir. Les résultats sont devant
vous. Il dira ce qu'il aura à dire. Je ne suis pas le président de la République et je ne.
Vous le conseillez un petit peu.
Mais je ne parle pas en son nom et si jamais je lui donnais des conseils, je n'en ferai pas part. Évidemment, c'est des choix et des responsabilités qui lui appartiennent. Mais je pense que ce qui est important, c'est de bien montrer. Parce que c'est cette explication qui manque, cette explication manque. Je peux m'en faire le reproche à moi ou pouvons-nous en faire le reproche à nous-mêmes. Ce que nous avons fait depuis 2012, c'est pas des pages successives qui se tournent, qui effacent l'une par rapport à l'autre. Non, c'est une politique qui est une politique qui a sa cohérence, sa continuité et sa cohérence. Fin 2012, avec le rapport Gallois, nous avons dit la compétitivité des entreprises est profondément dégradée en France. Il faut leur redonner cette compétitivité. Nous l'avons mis en œuvre en 2013, en 2014, en 2015. Ça commence à porter ses fruits. Et ça, c'est une politique qui, dans la durée, est une politique gagnante.
Rosine Fèvre.
Alors, sur la loi El Khomri, c'était parti pour une simplification du Code du travail, mais ça se termine par des taxes, un peu souvent avec les socialistes, pardonnez-moi ce commentaire. La loi El Khomri, après ses abandons, après ses discussions, après ses modifications, après ses renoncements, est-ce que vous pensez réellement, Michel Sapin, que les entrepreneurs et les petits entrepreneurs vont embaucher ?
Les 100 000 créations d'emplois supplémentaires de l'année dernière, c'était dans quelles conditions ? C'est qu'avec quel droit du travail ? Bref, le droit du travail qui valait il y a 5 ans ou 10 ans et qui permettait de créer des emplois, je ne vois pas pourquoi aujourd'hui il empêcherait de créer des emplois. Après, il y a tout un discours, il y a toute une mise en condition, il y a une psychologie, il y a une crainte de l'avenir, je veux bien le comprendre, mais ce sont des éléments tout à fait différents. Et puis objectivement, les entreprises avaient perdu des marges de manœuvre, des capacités d'investir et d'embaucher, elles sont en train de les retrouver. Mais la loi El Khomri, pour revenir à elle, les deux éléments fondamentaux de cette loi El Khomri. Je ne comprends même pas comment on peut ne pas partager, si on regarde vraiment les choses. C'est d'une part la capacité de négocier dans l'entreprise, de négocier des accords majoritaires dans l'entreprise. C'est la suite de ce que, pour ma part, dans la continuité d'un accord passé entre partenaires sociaux, j'avais souhaité en 2013. C'est l'approfondissement. Cette négociation, elle est indispensable pour permettre, par la négociation, avec les contreparties nécessaires, aux entreprises de s'adapter aux enjeux nouveaux, à des marchés à conquérir, à des technologies nouvelles. Ça, c'est le premier pilier. Le deuxième pilier, c'est le compte personnel d'activité. Alors, ça paraît un sigle comme ça, donc c'est très difficile de le décrire. Mais c'est quoi ? C'est permettre à chaque individu, à chaque personne, d'acquérir des droits à la formation, des droits à l'indemnisation, des droits éventuellement de partir plus tôt à la retraite, qu'il peut faire jouer lorsqu'il le veut. C'est une liberté supplémentaire. C'est ça, de la flexibilité dans le débat au sein de l'entreprise, accompagnée d'une sécurisation supplémentaire pour chacun et chacune des individus qui peuvent être, à un moment donné de sa vie, confrontés. C'est ça le cœur de cette loi El Khomri. C'est là où, en quoi elle est bénéfique. Après, il y a eu des débats sur tel ou tel sujet, sur les conditions de licenciement économique, sur les indemnités qui peuvent être versées dans le cadre de licenciement devant les prud'hommes. Et ces débats-là ont en quelque sorte caché complètement les deux grands piliers dont je viens de parler.
Mais est-ce que le résultat auquel on aboutit aujourd'hui, c'est que ni les patrons sont contents, ni les salariés sont contents ?
Oui, on pourrait dire que c'est peut-être que les choses sont équilibrées. Hein. Bon, voilà. Après,
la synthèse.
Sont peut-être plus équilibrées qu'on ne le dit ou qu'on ne le pense. Je pense que c'est bon pour l'économie et les entreprises. Je pense que c'est bon pour les salariés. On peut être gagnant d'un côté comme gagnant de l'autre. J'aimerais juste répondre sur votre expression quand vous avez un problème, vous créez une taxe. C'est-à-dire une expression qui a été utilisée par Monsieur Gattaz. De quoi s'agit-il ? Il s'agit de renchérir le coût des contrats à durée déterminée très courts. Est-ce que c'est une invention d'aujourd'hui ?
Vous l'avez déjà fait en 2013.
Je l'ai fait. Ouais. Les partenaires sociaux, le patronat et les syndicats, l'ont décidé.
Et il n'y a jamais eu autant de CDD en France.
Le patronat, juste comme ça, qu'ils ne viennent pas me dire qu'ils découvrent tout d'un coup une abomination qui aurait été créée par ce gouvernement. Le patronat et les syndicats ont décidé en 2013 la mise en œuvre d'un système qui me paraît parfaitement juste, qu'on appelle de bonus-malus. Il y a eu un avantage donné, une baisse des cotisations pour les contrats à durée indéterminée et une hausse des cotisations pour les contrats à durée déterminée. Est-ce que ça a été suffisamment efficace ? La réponse est non, puisque vous me disiez, non, c'est pas le jamais, il y en a eu autant, parce que ça n'a pas augmenté depuis, mais ça n'a pas diminué. Donc ça n'a pas été efficace. Qu'est-ce qui peut permettre que ce soit efficace ? C'est le taux, c'est le coût, le renchérissement. Est-ce que c'est nous qui décidons ? Est-ce que le gouvernement a annoncé le niveau des taux ? Non, il a dit que c'était aux partenaires sociaux de le discuter. Donc franchement, ceux qui montent sur leurs grands chevaux en disant que c'est un coup de poignard, que c'est je ne sais trop quoi, une taxe de plus, vraiment, ceux-là devraient regarder les réalités en face. Ils vont d'ailleurs apprendre leurs responsabilités puisqu'ils auront à négocier les montants, les cotisations, le niveau exact de ce renchérissement des contrats à durée déterminée. C'est le seul moyen de faire en sorte qu'une entreprise se dise « Bon, au bout du compte, j'ai quand même plus d'intérêt, à tout point de vue, d'embaucher quelqu'un en contrat à durée indéterminée plutôt que quelqu'un en contrat à durée déterminée. »
Michel Sapin, parlons maintenant de la nouvelle coqueluche de la vie politique française, Emmanuel Macron, le ministre de l'économie, votre voisin de palier à Bercy.
Non, voisin en dessous.
En dessous, il est au 6e, 5e étage, bon peu importe.
Non, 3e. Il lance, moi qui suis au 6e.
Il a lancé la semaine dernière son mouvement politique, En Marche. Il va lancer un porte-à-porte dans toute la France pour faire le bilan du pays, dit-il. Écoutez ce qu'il disait dimanche soir sur France 2.
Je ne ferai rien qui fragilise le président de la République. En même temps, je le dis depuis le début, on ne peut pas me l'enlever. Depuis que je suis ministre, j'essaie de faire le maximum de choses dans ce collectif gouvernemental auquel j'adhère. Et en même temps, je voudrais faire plus. Ce qu'il manque aujourd'hui, c'est de proposer des solutions radicales.
Emmanuel Macron, dimanche soir sur France 2, ça ne vous a pas fait bondir ? C'est carrément un droit d'inventeur qu'il fait là ?
Ça m'a fait bondir parce que j'étais en Afrique, je travaillais avec des responsables africains au développement de ces pays, à l'avenir du franc CFA, bref, à des choses très concrètes et qui apportent
beaucoup plus importantes qu'Emmanuel Macron, c'est ça ?
Beaucoup d'éléments positifs à ces pays qui ont besoin aussi qu'on les aide et qu'on les accompagne dans leur propre développement. Mais je vois bien les transcriptions, j'écoute à l'instant avec plaisir. Écoutez, Le droit d'inventaire, il sera fait par les Français eux-mêmes. C'est l'objectif.
Mais qu'un ministre commence à le faire, là, le droit d'inventaire, en responsabilité.
Il sera fait par les Français. C'est le principe même de la démocratie et de ces démocraties avec des rendez-vous qui permettent à ce droit d'inventaire de s'exercer dans toute transparence. Aujourd'hui, le devoir, on en a parlé, c'est le devoir de réussite, c'est le devoir d'avoir des résultats. Chaque ministre doit s'atteler à une tâche, j'ose pas dire une seule, parce que par ailleurs, expliquer, faire de la politique, du porte-à-porte, tout ça est très utile, mais à une tâche, c'est réussir, avoir des résultats, chacun dans son domaine. Là, j'ai des résultats en termes de diminution du déficit. Je trouve que ça vaut le coup de l'essayer d'expliquer. Il y a des résultats en termes de création d'emplois. Ça vaut le coup d'expliquer en disant toujours qu'il n'y en a pas suffisamment pour faire baisser le chômage et qu'il faut donc continuer. Donc que chacun soit à sa tâche, que cette tâche permette d'apporter le meilleur aux Français et par ailleurs permette aussi de donner à la gauche une crédibilité, de retrouver une crédibilité qui aujourd'hui, objectivement, si on regarde les choses en face...
La démarche d'Emmanuel Macron participe de cette crédibilité ?
Ça ne peut être que son seul fondement. Tout autre
fondement.
Non, mais
fondement, vous, ce que vous en pensez là aujourd'hui.
J'explique que ça ne peut être que son seul fondement. Je ne connais pas d'autre fondement à l'action politique au sein d'un gouvernement.
Quand vous entendez qu'il crée un mouvement qui est ni à droite ni à gauche, en gros, qui appelle un dépassement du clivage droite-gauche, vous, qu'est-ce que ça vous fait penser ?
J'ai un avantage et un inconvénient aussi par rapport à d'autres, c'est que j'ai un tout petit peu d'ancienneté en vie politique.
C'est pour ça que je vous pose la question.
Et que à 28 ans, comme quoi on peut être encore plus jeune, j'étais député et que à l'âge de 36 ans, j'étais ministre. Donc je vois très bien ce que c'est que le discours sur nouveau, et puis je vois bien aussi le discours qui peut exister sur ni d'un côté ni de l'autre. Et il y a des tas de sujets sur lesquels il faut rassembler les Français. Quand aujourd'hui le gouvernement agit contre le terrorisme, c'est pas la droite contre la gauche, c'est au service des Français. Lorsque on intervient à l'extérieur pour combattre les terroristes en Syrie ou au Mali, et je salue le décès aujourd'hui d'un jeune soldat français au Mali, on ne le fait pas au nom de la droite ou de la gauche. On dépasse les clivages, parce qu'on a un intérêt général. Mais la vie française, politique française, elle est faite autour de ce débat démocratique entre des propositions qu'on va qualifier plutôt de droite et des propositions que l'on va qualifier plutôt de gauche. C'est ça qui fait la vie démocratique. Et donc, rien ne sert, même si c'est avec beaucoup d'habileté, d'intelligence et d'enthousiasme, de laisser penser qu'on peut se débarrasser, en quelque sorte, de ce clivage, qui est un bon clivage, qui est un clivage démocratique et qui permet aux Français d'exercer un choix. Le choix libre des Français, ce sont des projets différents qui font débat, s'affrontent, au bon sens du terme, au sens démocratique du terme.
Michel Sapin est l'invité de Mardi Politique.
Mardi Politique.
Dernière séquence de cette émission, des questions courtes et des réponses courtes, s'il vous plaît. Le débat sur la légalisation du cannabis est relancé. Votre point de vue, vous, en tant que ministre des Finances, ce serait tout bénef. Ça ferait rentrer beaucoup d'argent dans les caisses de l'État.
On ne peut pas penser le monde uniquement au travers de l'argent. Donc ce débat n'est pas ouvert, il est clos.
À quand remonte votre dernier joint ?
J'en ai jamais fumé, mais je fume pas de cigarette non plus. Donc,
Rodine Fèvre.
Alors, vous êtes très amis avec François Hollande depuis longtemps. Vous avez fait votre service militaire ensemble. Est-ce que le pouvoir modifie l'amitié ? Est-ce qu'on peut dire avec un homme avec qui on est copain depuis longtemps, écoute, tu m'emmerdes là-dessus ou pas ?
Le pouvoir ne modifie pas l'amitié à une condition, c'est qu'on crée un mur totalement étanche entre ce qui est l'exercice de la responsabilité politique, il est président de la République, je suis ministre des Finances, je suis sous son autorité, et ce qui est du domaine du privé, de l'amitié. Je crois que nous avons réussi à conserver cette étanchéité.
Il reste 15 secondes, Lilian Alemania.
Juste en un mot, quelle est la loi qu'il faut réussir en cette année pour être réélu en 2017 pour François Hollande ?
Difficile de le dire, mais
une seule.
Moi, il y a une loi à laquelle je tiens. Elle s'appelle la loi Sapin 2. Je pense que
la vôtre.
De la morale,
merci.
De la force, de la conviction,
merci Michel
ça peut
Sapin.
Être utile.
C'est la fin de Mardi Politique avec le ministre des Finances et des Comptes Publics. Très bonne soirée à tous.